Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le second cours sur les pérovskites. Donc les pérovskites, cette fois-ci, vous allez voir une autre catégorie de pérovskites au niveau de la composition chimique, avec des structures qui sont toujours des structures pérovskites, en particulier des structures dans lesquelles certains cations sont remplacés par des. Certains cations, je dirais, métalliques sont remplacés par des cations organiques. Donc, en fait, voilà rapidement le plan de la leçon. Donc, je vais reprendre quelques définitions avec vous, surtout pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais refaire un petit peu l'historique bibliographique, en fait, des pérovskites hybrides. Bon, après, je vous montrerai certaines propriétés et applications, surtout centrées sur le photovoltaïque et l'optoélectronique. Ensuite, on passera, en fait, aux parties qui concernent la chimie et les modes d'élaboration, et puis les limites en fait, de ces systèmes et quelques remèdes. Et puis à la fin, je vous montrerai que finalement, les pérovskites hybrides, il y a d'autres possibilités que celles que vous connaissez tous, ou presque tous, et que ça ouvre finalement au niveau de la science fondamentale énormément d'intérêt. Ici, j'ai reporté... Le nombre de publications en fonction du nombre d'années, c'est ce graphe que je vous ai montré la dernière fois. Donc avec les supraconducteurs à OTC, les magnétorésistances colossales. Tout au long ici, vous avez beaucoup de publications associées aux propriétés de base des pérovskites de type oxyde, qui sont des propriétés essentiellement pyroélectriques, piézoélectriques et autres. Et puis, vous voyez ici, à partir de là, vous voyez que ça commence à décoller. Très clairement, avec l'arrivée donc justement des hybrides pour le photovoltaïque. Et aujourd'hui, si on regarde la production en fait uniquement sur les hybrides et photovoltaïques, vous voyez, on est à peu près en 2018. Bon là, ça, j'en ai un petit peu plus parce que j'ai fait la biblio jusqu'à 2020. Vous avez à peu près la moitié des publications, 1600 publications, qui sont simplement ciblées sur pérovskite hybride et photovoltaïque. Donc c'est vraiment l'aspect photovoltaïque qui a fait que ce domaine a complètement explosé au niveau de l'intérêt en fait dans les labos à la fois académiques et industriels. Alors je vous rappelle que les structures de base des pérovskites oxydes, ce sont des structures ABO3 où finalement les atomes d'oxygène sont représentés en rouge. Ils définissent des octaèdres dans lesquels se retrouvent en fait des cations métalliques du type titane 4+, par exemple. Ça, c'est la pérovskite, je dirais, de base. C'est la première qui a été trouvée. Et ensuite, dans les sites de coordinance 12, vous avez des cations plus gros, tels que cet alcalinotéreux, le calcium. Ça, ce sont les pérovskites que je dirais traditionnels. Mais vous avez toute une famille qui en fait correspond exactement aux mêmes structures, dans lesquelles finalement l'oxygène a été remplacé par un halogène, du brome ou de l'iode par exemple. Donc du fait de l'équilibre des charges, eh bien, vous allez avoir un positionnement des charges des cations qui va être différent. Typiquement, vous avez trois charges ici négatives et ici 6. Donc, finalement, vous allez avoir une compensation des charges uniquement par des cations dont la somme des charges sera 3+. Donc, typiquement, au centre des octaèdres, vous allez avoir du plomb. Et puis, dans le site de coordinance 12, eh bien, vous allez avoir soit, par exemple, d'autres types de cations alcalins ou bien les possibilités d'y inclure des molécules organiques du type de ce méthylammonium. Alors, toute cette chimie, elle est basée finalement sur la chimie des métaux, un petit peu plus électronégatifs que l'on trouve en général à la droite du tableau périodique et qui correspondent à des métaux qui engagent essentiellement leurs orbitales S et leurs orbitales P dans les liaisons chimiques. C'est-à-dire, globalement, les orbitales D jouent un second rôle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles ne participent pas, par exemple, au changement d'oxydoréduction. Alors si on regarde maintenant justement les débuts de cette chimie, en se basant pour un des premiers travaux que j'ai trouvé, c'est celui du cristallographe danois Haldor Topsøe, qui a préparé, vous voyez, en se basant sur une chimie, donc des halogènes et du mercure, qui a préparé un premier composé, typiquement qui correspond exactement à cette formule, où le cation A, ben, c'est un alkyle ammonium. Le cation, dans les sites tétraédriques, c'est du mercure, donc un mercure divalent, qui a également une électronégativité de l'ordre de 2, comme le plomb, par exemple, et puis des halogènes type chlore. Donc ça a été le premier travail en 1882. Ensuite, on va se rapprocher en fait des pérovskites qui sont un petit peu plus d'intérêt dans le cadre de la leçon d'aujourd'hui. Le travail de Wells en 1893, vous voyez, donc, où il étudie toute une famille autour des halogénures de plomb avec essentiellement le césium comme cation centrale. Mais tout ça, ça correspond exactement aux structures pérovskites, bien entendu, qui ont été définies au niveau structural précédemment. Ensuite, un travail qui commence à être plus intéressant sur l'aspect des propriétés, c'est le travail de Moller, qui a publié en fait deux articles assez intéressants, où à nouveau, en fait, il réutilise cette pérovskite de plomb et d'halogénure avec en cation, en site de coordinance 12, le césium. Mais là, vous voyez, commence à faire apparaître certaines propriétés qui peuvent être intéressantes du type photoconductivité. C'est 1957. Hein, typiquement, bon, ça a été un petit peu oublié dans la littérature. Et puis arrive ensuite le travail de Weber en 1978, où il établit la première structure, je dirais, par diffraction des rayons X, où finalement on retrouve la pérovskite classique. C'est énormément autour de celle-là que je vais discuter aujourd'hui dans ma leçon. Mais bon, vous allez voir qu'il y a énormément de variantes, mais je dirais que c'est la pérovskite hybride de base, où on a un plomb, on a des halogènes en rouge qui définissent un site octaédrique, et puis dans la cage centrale, on a un cation organique, typiquement le méthylammonium. Ce système-là, c'est la structure de base et elle a été établie par ce chercheur, Dieter Weber, vous voyez, en 1978. Ensuite, il y a un saut, 1994, et là, à mon avis, c'est un des premiers travaux qui ouvre finalement vers le début des propriétés, puis de la vague, je dirais, des propriétés électroniques et photovoltaïques des pérovskites. Ça, c'est un travail de David Midzi, bon, qui est bien connu dans l'élaboration de nombreux matériaux, de nanomatériaux. J'en ai souvent parlé dans d'autres cours au cours de ces dernières années, qui a donc réalisé la synthèse d'hybrides, de pérovskites hybrides, organiques et inorganiques, mais cette fois des systèmes lamellaires, en choisissant comme métal central, bon, pas le plomb, mais l'étain. Et en particulier, il a joué au niveau de la chimie avec un couple de cations, un petit cation du type méthylammonium, et puis des butylamines protonées, comme second cation. Bon, je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'est une stratégie qui permet finalement de passer des structures 3D conventionnelles des pérovskites à des structures lamellaires du type 2D. Hein, donc typiquement, ce sont des pérovskites lamellaires, vous voyez, où le petit cation se trouve dans le site interne de la pérovskite, et puis les grands cations, en fait, sont des doubles couches cationiques qui séparent finalement les structures lamellaires. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de Midzi, bon, typiquement, si je reprends un dessin un peu plus alléchant, ce sont les phases que j'ai définies la dernière fois de Rudlesden-Popper, avec finalement des structures en forme pérovskite, le petit cation organique au centre des cavités, au centre des octaèdres, vous avez l'étain entouré de 6 iodes dans le cas présent, et puis ces petites boules marron à l'extérieur, ce sont symbolisent finalement les grands cations organiques. Alors ce qu'il a montré dans son travail, c'est non seulement cette possibilité de variété structurale, mais également ce sont des semi-conducteurs dont la résistance diminue lorsque N augmente. Et en particulier, il observe des transitions isolant métal, ou semi-conducteur métal, pour être plus exact. Et donc, ça montre déjà que ces matériaux sont quand même assez intéressants au niveau des propriétés électroniques en particulier. Alors, Sur ce transparent, en fait, ce que je vous montre, c'est les fameuses cellules solaires à pigments photosensibles. Vous allez voir pourquoi, en fait, pourquoi je vous le montre en premier, parce que finalement, la première utilisation du côté photovoltaïque des pérovskites hybrides, ça a été finalement le remplacement de ce colorant qui est le pigment photosensible dans une cellule conventionnelle. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez la lumière qui traverse une électrode transparente. Vous excitez ce colorant, donc vous allez créer une paire d'électrons-trous au niveau du colorant. L'électron dans l'état excité du colorant passe dans le semi-conducteur N, qui dans le cas présent est de l'oxyde de titane. Ensuite, il est déversé dans un circuit extérieur, revient à la contre-électrode. Et donc à ce moment-là, vous avez ici un écoulement de flux, en fait, de flux de courant. Donc c'est ce qui est intéressant dans l'effet photovoltaïque. Ce flux arrive à la contre-électrode, et donc à cette cathode, vous allez avoir des électrons qui réduisent des espèces oxydées du type I3-. Vous avez le couple I3-I- dans solution, et ensuite, les espèces qui sont réduites, c'est-à-dire les iodures, les ions I-, diffusent jusqu'au colorant oxydé pour le réduire, et la boucle est bouclée. Donc ça, c'est une cellule, je dirais, à pigments photosensibles, et ceci a été découvert, vous voyez, en 1991 par Gretzel, et c'est ce que l'on appelle maintenant la fameuse cellule Gretzel, qui est connue, mondialement, et donc c'est basé finalement sur ce système qui est assez astucieux, qui imite un petit peu finalement la photosynthèse. Alors, des applications du côté de ces cellules solaires à colorant, Gretzel, vous voyez, il y a quelques panneaux solaires qui sont développés au niveau de prototypes. Également au niveau d'articles de sport, vous voyez, vous avez des cellules qui sont incorporées, qui permettent d'avoir du courant. J'ai trouvé d'autres données, par exemple, sur les chargeurs pour mobiles incorporés dans les lunettes. Il y a un certain nombre de travaux où on utilise finalement ces piles de type Gretzel comme source d'énergie solaire pour faire fonctionner un véhicule. Bon, pour l'instant, ce sont plutôt des prototypes, il n'y a rien de vraiment commercial. Mais c'est une approche qui a vraiment fait une rupture à l'époque, et c'est une approche très intéressante. Alors maintenant, le premier choc au niveau des pérovskites hybrides photovoltaïques, c'est ce travail de Miya Saka, qui a été publié en 2009, où il utilise finalement la pérovskite hybride standard à base de plomb avec le méthylammonium. Et ce qu'il montre finalement, c'est que cette pérovskite peut jouer le rôle de pigment photosensible. Donc c'est un colorant efficace dans les cellules solaires, exactement dans le mode de construction d'une cellule Gretzel, avec des rendements de cellulaires de 3,8% et des photocourants, 11 mA par centimètre carré, qui ne sont pas mauvais, quoi. C'est un photocourant tout à fait décevant. Aujourd'hui, les cellules Gretzel sont entre 12 et 13% comme rendement optimum. Les cellules Gretzel, je vais en reparler tout à l'heure. Donc c'est pour vous donner. Donc il y avait déjà, sur une première manip, il y avait déjà un rendement qui n'était pas mauvais, en fait, qui n'était pas nul. Alors la seconde publication de la même équipe, et là c'est assez intéressant au niveau de la construction chimique, c'est l'étude finalement de l'autre propriété, c'est-à-dire les propriétés de photoluminescence de ces pérovskites hybrides. Une manip assez simple pour la mettre en évidence. Vous prenez les deux précurseurs, c'est-à-dire le bromure de méthylamine et puis un bromure de plomb dans un solvant qui est compatible avec les deux systèmes. Donc vous obtenez une solution homogène et vous déposez sur un substrat une goutte, sur un substrat par exemple d'aluminium ou autre, vous déposez une goutte de ce système. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la synthèse elle a été suivie sous irradiation UV. Alors, ce que vous voyez ici à temps T égale 0, c'est que vous ne formez pas du tout la pérovskite par séchage simple. Et au fur et à mesure que vous poussez le séchage avec un petit effort de température, vous voyez 50 degrés, vous voyez apparaître la luminescence intense du système pérovskite. Donc, finalement, c'est une nucléation et croissance de la pérovskite, je reviendrai là-dessus, qui peut avoir lieu à des températures qui sont au niveau de l'ambiance ou pratiquement pas très loin de la température ambiante. Donc typiquement, c'est de la chimie douce. Alors ça donne des matériaux fortement luminescents. Alors ce qui a fait vraiment un peu de buzz dans le photovoltaïque, c'est ce second travail de Henri Snijs, de son équipe, qui a étudié finalement de façon un peu plus physiques encore, les propriétés de ces perovskites hybrides lorsqu'ils sont mis dans une cellule. Et en particulier, ça a montré que la perovskite fonctionne avec un support mésoporeux ou même voire sans support mésoporeux. Ça devient très très intéressant parce qu'on pouvait penser que la perovskite avait simplement un rôle de pigment photosensible, mais en fait, elle peut faire très bien le travail du semi-conducteur N en même temps. Donc, c'est un travail qui a été publié, vous voyez, en 2012, et ça a été vraiment le second choc important dans la communauté scientifique, puisque les supports peuvent être évidemment du TiO2, mais ça peut être simplement de l'alumine, et l'alumine, c'est un système qui est isolant. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le système répond avec des taux de conversion qui sont pas mal du tout, même sur un isolant. Et lorsqu'on regarde les photocourants, eh ben on est à peu près à des photocourants entre 15 et 20 mA par centimètre carré, même si on utilise un substrat qui est isolant l'alumine. Ce qui veut dire, en gros, c'est que la perovskite hybride peut faire les deux. Elle peut être à la fois sensibilisateur, mais également peut jouer le rôle d'un semi-conducteur et de créer une jonction PN qui soit efficace. Alors, les photocourants dans ce premier travail étaient, vous voyez, de l'ordre de 17 milliampères, avec des rendements qui sont pas mauvais, de l'ordre de 10%. Donc, ça va vite hein, quand même. 2012, ils sont déjà à 10%. Je vous rappelle que les cellules Grazer, c'est 12% sur je ne sais pas combien d'années pour arriver à 12%. Et le silicium, bon, je vais en parler tout à l'heure. Avec des conditions d'illumination standard, alors ce que vous trouvez très souvent dans les articles, c'est en fait ces conditions d'illumination, ça correspond à une puissance fixée de 1000 watts par mètre carré, à une température de 25 degrés. Et illumination AM1.5, ça veut dire que ça correspond à la traversée d'environ 1,5 fois l'épaisseur de la couche atmosphérique. C'est-à-dire que si vous irradiez au zénith, à ce moment-là, vous avez une couche atmosphérique. Si vous irradiez en fait à 42 degrés, je crois, vous avez 1,5, vous traversez beaucoup plus. Et ça, ce sont finalement les normes standards qui sont utilisées dans le photovoltaïque. Donc, à chaque fois que vous voyez des données, regardez qu'au moins en fait, les normes standards soient conservées parce que ça vous permet de comparer finalement les systèmes. Et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est basé en fait sur les normes standards. Alors, si je reviens là-dessus, donc c'est une couche photoactive sans support de TiO2, et donc la perovskite joue un double rôle. Donc là, ça a commencé, d'ailleurs on le voit après 2012, ça a commencé un petit peu à exciter tout le monde. Un travail donc, qui a tout de suite suivi de la même équipe, cette fois-ci avec des mesures physiques qui sont intéressantes, puisque via des mesures de photoluminescence, on peut mesurer les longueurs de diffusion des électrons et des trous. Et les coefficients de diffusion. Et on voit que finalement, les longueurs de. En fait, ça dépend finalement de l'halogène qui est utilisé, mais on a des longueurs de diffusion des électrons et des trous qui sont remarquables. C'est très long, donc ça veut dire que ça ne se recombine pas énormément. Donc ce sont des systèmes qui sont très efficaces pour justement les applications photovoltaïques, donc bien séparées, des longueurs de diffusion charges très grandes, peu de recombinaison. Donc ça amène finalement un argument supplémentaire à tous les gens qui s'intéressaient au photovoltaïque, ces matériaux ont quelque chose de particulier. Alors, si on regarde maintenant les différentes modes de cellules, en fait, bon, vous avez des cellules classiques, vous allez avoir un conducteur d'électrons ou un conducteur de trous, la perovskite et du TiO2, mais vous pouvez également en mode direct ou inverse, en fait, simplement, si on inverse simplement la position des électrodes, mais cette perovskite peut être utilisée toute seule. Alors, en général, ce que l'on fait dans ces systèmes-là, c'est qu'on les couple pour créer en fait, ce qu'on appelle des cellules tandem avec du silicium, simplement parce que ça permet d'optimiser finalement la lumière reçue par la cellule photovoltaïque. Donc il y a des données, si vous avez fait des analyses des données pour tester le matériau, la première chose qu'il faut regarder dans un article, c'est est-ce que c'est une jonction unique, d'accord, ou est-ce que c'est une jonction en tandem ou pas. Parce que là, les rendements ne vont pas être les mêmes, hein, et c'est assez important de voir le détail. Pourquoi c'est intéressant de se mettre en position tandem, en particulier avec une zone, voyez, vous avez deux jonctions, une jonction PN qui est à base de pérovskite, et une autre jonction PN qui est à base de silicium. Donc la pérovskite, elle, vu son gap, absorbe les radiations bleues du spectre solaire, et donc la partie silicium, elle, va absorber les radiations rouges et infrarouges. Donc vous récupérez, en fait, en faisant une cellule tandem, un peu plus de photons, finalement, sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que vous avez, pour toute cellule, une jonction PN unique, vous avez une limite théorique de la transformation photon vers l'électron qui est donnée par la relation de Shockley-Kayser. Et donc, pour une seule jonction PN, le rendement maximum de la cellule est de 31% pour, vous voyez, dans les conditions standards, à nouveau, pour un gap du semi-conducteur de l'ordre de 1,55 électronvolts. C'est vrai pour une jonction PN. Quand vous commencez à coupler en fait, plusieurs jonctions PN, eh bien, cette limite de Shockley peut être dépassée. Et ça, c'est intéressant au niveau de l'application. Par exemple, si vous couplez N cellules de jonction PN, à ce moment-là, le rendement de votre cellule photovoltaïque théorique peut atteindre, je crois, quelque chose de type 86%. D'accord ? Donc il y a beaucoup de travaux dans la littérature qui se font avec une jonction ou avec le système tandem, parce que ça leur permet déjà d'avoir un optimum au niveau des photons, globalement, qui sont captés par la cellule. Un deuxième point, quand vous regardez l'aspect photovoltaïque, c'est que la texture compte, parce qu'il faut optimiser, finalement, concentrer au mieux la lumière. Donc les effets de surface, le choix en fait, de la forme va également être important pour focaliser, finalement, d'une façon, je dirais, physiquement, finalement, la lumière pour optimiser les rendements. Alors ça, c'est un premier travail qui a été fait, vous voyez, en 2018, où finalement, en montant une cellule tandem avec du silicium, 25% de rendement avec des photocourants de l'ordre presque de 20, avec des facteurs de forme qui ne sont pas mauvais, une stabilité sur une centaine d'heures, à 85 degrés, avec un fort taux d'humidité sous les illuminations standards. Et donc là, vous allez voir, c'est 2018, et là, on sent, vous allez le voir dans les prochains articles, une course, finalement, au rendement photovoltaïque. Hein, voilà, ça, c'est Oxford, les gens d'Oxford, qui sont à 27,3 à nouveau avec une cellule tandem. Donc, un peu le modèle équivalent. Et puis, l'IMEC, donc c'est un centre de recherche et de développement sur les cellules solaires qui est à Louvain, en Belgique, 27,1%, vous voyez. Et récemment, en fait, courant 2019, il y a une équipe hollandaise qui a publié un travail où, en fait, ils atteignent également avec une cellule tandem 30%. Donc, vous voyez, on atteint très vite des valeurs de rendement de conversion photovoltaïque qui sont assez énormes. Alors, qu'est-ce qu'on attend, j'irais, dans les années 2020 et quelque chose ? J'irais, je ne parie pas, mais je pense qu'on ira facilement vers les 33, 37, 30, 37% en fait. Hein. Très facilement, parce qu'on voit bien, vous allez voir la pente, s'il y a vraiment une augmentation finalement de la qualité des rendements, et c'est aussi associé à la grande quantité de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent sur ce thème. Hein. Donc je vous rappelle, une pérovskite hybride à une seule jonction PN, donc le matériau de base, la réponse maximale aujourd'hui, elle est de 25,2%. Ça, c'est le rendement photovoltaïque. Alors, si on compare ce rendement pour la cellule unique de pérovskite hybride, le silicium cristallin, il est à 27,6, en fonction si c'est un monocristal ou s'il est polycristallin. En amorphe, c'est beaucoup plus bas, je vais vous montrer. Et puis, d'autres systèmes qui ont été énormément étudiés, en particulier par des équipes françaises. Hein, donc, ce sont des alliages de cuivre-indium, gadolinium et sélénium, et donc c'est un sélénure de ces métaux-là, couplé à une pérovskite, vous voyez, on est également dans les 25%. Alors, à chaque fois que vous analysez quelque chose, regardez si c'est une jonction PN unique, si c'est un système qui travaille en tandem ou s'il y a multiples jonctions, parce que finalement, les chiffres annoncés dépendent énormément de du montage finalement de la cellule. Regardez également si par exemple si c'est un système qui est cristallin, polycristallin ou amorphe, si c'est fait sous forme de film, etc., etc. Parce que finalement, ce qu'on voit souvent dans la presse, je dirais un peu de vulgarisation, c'est les chiffres. Ah, le tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Mais après, il faut quand même aller regarder un peu dans le détail à quoi correspond justement ce chiffre. Alors ça, c'est une analyse qui a été faite en fonction du nombre d'années depuis à peu près les années 75-80 jusqu'à 2020. Alors ici, ce que vous avez ici, c'est le rendement cellulaire photovoltaïque, et ici vous avez les années. Ces deux petits traits rouges et marrons ici sont les limites du modèle théorique Shockley-Kayser, donc à 31 et à 33%, parce que cette limite varie un petit peu en fonction finalement du gap, c'est-à-dire la séparation entre bande de valence et bande de conduction du semi-conducteur. Mais globalement, c'est quelque chose qui est bloqué entre, je dirais, 31 et 33%. Et donc, pour ces systèmes monocellules avec une seule jonction PN, ils sont reportés ici, en dessous de ces points-là. Ce que vous voyez au-dessus, là, ce sont des systèmes où ce sont des jonctions multiples. Alors maintenant, si on essaye de comparer tout ça, qu'est-ce que l'on voit ? On voit, bon, si je prends la cellule de Gretzel, à 12%, vous voyez, globalement, on est à 12,3%. Bon, il y a eu des améliorations, mais pas sur le rendement. Les cellules photovoltaïques entièrement organiques, elles se trouvent à 17% aujourd'hui au maximum, avec tous les problèmes qu'il y a eu de stabilité, etc. Donc c'est un score qui est tout à fait intéressant. Du côté donc des alliages cuivre, indium, gallium et sélénium, le maximum d'une seule jonction PN, on est à 23,4. Pour les siliciums, 27,3. 23%, et puis pour l'arsenure de gallium, qui est un semi-conducteur bien connu, qui a été énormément travaillé en microélectronique, 30%. Donc vous voyez que globalement, les cellules de type perovskite sont à 25%. Elles sont pratiquement dans la course du silicium, avec finalement des coûts moindres, hein, et elles n'ont pas fini de progresser, parce que cette progression, on la voit très nettement sur ce deuxième graphique où j'ai reporté uniquement pour les cellules, les rendements cellulaires pour des cellules photovoltaïques hybrides, sans tandem, juste la cellule PN. Et vous voyez, le travail a commencé en 2009 et là, vous voyez comment ça monte. Et aujourd'hui, on est à pratiquement à 25% en 2020. Hein ? Donc en fait, c'est une croissance qui est très très rapide avec, je dirais, des résultats qui sont assez convaincants. Alors, l'intérêt de ces matériaux de type perovskite, je vous l'ai déjà souligné la dernière fois, c'est que finalement, il y a une très grande possibilité, une très grande variabilité dans la composition chimique. Bon, aujourd'hui, finalement, il y a une douzaine de cations à base d'amine protonée qui ont été essayés, 21 métaux divalents, et puis des espèces acyaniques variées. Bon, l'essentiel du travail pour le photovoltaïque porte finalement sur des perovskites avec comme anion les halogènes. Mais ce qu'il faut voir, et j'en parlerai à la fin de mon exposé, c'est qu'il y a des tas de mixités possibles, non seulement entre ammonium et entre ammonium de différentes tailles, entre ammonium et des cations gros alcalins, du type césium par exemple, et vous avez également des mixités possibles du côté de l'anion. Donc ça, au niveau du chimiste, ça ouvre un terrain qui est assez fabuleux pour créer finalement des nouveaux matériaux et des nouvelles phases et avec des nouvelles propriétés. Alors ce qui est intéressant, si on regarde ces perovskites, je dirais à nouveau la perovskite de base, avec des halogènes, du plomb et de l'ammonium, ce que l'on voit facilement, c'est que la substitution finalement, soit de l'halogène, soit du cation, entraîne des variations à structure équivalente, entraîne des variations du band gap, c'est-à-dire de la position et de la séparation des niveaux d'énergie, de manière totalement ajustable, vous voyez, entre 1,2 électronvolt et pratiquement 3 électronvolts. Ça veut dire que finalement, au niveau des photons, eh bien, on va pouvoir ajuster les réponses si on arrive à créer finalement des recombinaisons électrons-tout qui puissent émettre de la lumière, et ça va être le cas, eh bien, on va pouvoir ajuster très facilement le spectre des, des colorations obtenues. C'est un petit peu ce qu'on observe dans les quantum dots du type CDS et autres. Alors voilà ce que ça donne. Ça, ce sont des matériaux qui sont très fortement fluorescents, où on peut ajuster finalement la fluorescence, soit avec la composition chimique, en faisant varier par exemple le taux d'halogène, en faisant varier, je dirais, le mélange, par exemple, chlore-brome ou iode-brome, eh bien, on peut balayer à pratiquement tout le spectre, de couleurs, simplement parce qu'on fait varier pratiquement sur mesure la largeur de la zone interdite, entre donc l'espace entre la bande de conduction et la bande de valence. Alors, ces pérovskites, en voilà quelques-unes au niveau du positionnement des niveaux d'énergie. Quand on les compare aux transporteurs de trous, d'électrons, barrières à trous classiques, on faisait des nôtres, TiO2 par exemple, et puis les transporteurs de trous et donc barrières à électrons qui sont essentiellement très souvent des polymères organiques ou des molécules organiques, et on voit qu'il y a une très très bonne correspondance finalement entre les niveaux d'énergie de ces pérovskites et puis à la fois du côté des transporteurs de trous ou des transporteurs d'électrons. Et donc ça veut dire que si on applique un voltage, on va obtenir en fait une grande variation de couleurs et surtout une recombinaison radiative électron-trou qui va être très efficace puisque vous avez vu les propriétés physiques intrinsèques des mobilités et des propriétés, je dirais, de recombinaison sont absolument remarquables pour ces matériaux-là. Donc ça permet, vous voyez, de créer des systèmes qui vont être électroluminescents si vous appliquez un voltage et vous allez pouvoir ajuster très facilement la couleur, finalement, en choisissant la composition ad hoc, je dirais, de la pérovskite. Donc en fait, ces pérovskites hybrides ont une largeur de bande interdite. Ce sont des bandes gap directes, donc qui ne mettent pas en jeu en plus des couplages avec les phonons, comme dans les bandes gap indirectes, avec donc des valeurs en énergie qui sont totalement ajustables, de très forts coefficients d'absorption, une énergie de liaison de l'exciton faible, donc une dissociation d'électrons-trous très facile, on sépare très bien les charges, etc. Donc bonne mobilité des pertes, fort rendement de photoluminescence, couleur ajustable, je vous l'ai montré sur toute la gamme, et des propriétés mécaniques qui sont finalement pas trop mauvaises, de l'ordre d'une dizaine ou une vingtaine de gigapascales. Donc en fait, ce sont des matériaux qui présentent pas mal d'intérêt. Alors les propriétés et applications qui sont développées en ce moment autour de ces pérovskites hybrides, bon, il y a énormément de travaux sur le photovoltaïque. Alors à nouveau, un point important dans le photovoltaïque, c'est en fait la taille de la cellule. Vous avez des travaux académiques, en général dans un laboratoire, on travaille sur des électrodes de petite taille, typiquement de l'ordre du centimètre carré. Et là, on optimise le système, on obtient des rendements de 25%. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir des rendements équivalents sur des panneaux ou sur, par exemple, des cellules qui font 20 ou 30 cm. En général, il y a un décalage. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont produits, vous voyez, avec des rendements de l'ordre de 14%. Donc, mais avec, c'est déjà du 10-10. Et pour l'industriel, je dirais, c'est souvent le 10-10 qui est le bon prototype, ce qui l'intéresse. Également du côté donc, des diodes électroluminescentes, vous avez un certain nombre de brevets et d'applications qui ont lieu, et également dans le cadre des photodétecteurs. Donc ça, c'est surtout ces propriétés de photoluminescence et de photovoltaïque qui ont créé finalement ce boom, en fait, ce boom au niveau des publications et au nombre de laboratoires, finalement, qui se sont investis dans les pérovskites. Je pense qu'il y a à peu près, aujourd'hui, c'est marqué sur un des transparents, il y a 1000 instituts, pas labos, 1000 instituts dans le monde qui travaillent sur les pérovskites hybrides pour le photovoltaïque, et à peu près 2000 laboratoires. Donc ça représente une masse de gens qui est assez importante, et ça explique pourquoi, finalement, il y a autant de publications. Alors, les méthodes de synthèse de ces pérovskites, bon, il y a des synthèses, je dirais, de par méthode descendante, qu'on appelle top-down, typiquement mécanosynthèse, par broyage des précurseurs, ou bien par exfoliation de certains précurseurs, et bien par des méthodes un peu plus physiques, du type déposition en phase vapeur, c'est ce que j'ai représenté ici. On se met sous un vide bien marqué, un vide important, et on volatilise les deux précurseurs, c'est-à-dire le l'iodure de méthylammonium et l'iodure de plomb, pour aller les faire réagir sur une cible qui est déjà préparée, avec un verre conducteur transparent, et puis par exemple du TiO2, pour obtenir, vous voyez, des systèmes de ce type, qui sont cristallins, hein, qui sont, on voit bien que la cristallinité n'est pas impactée. Bon, il y a peut-être un peu d'impureté dans le second cas, mais globalement, on obtient la phase cristalline. Hein. D'autres méthodes, des méthodes plus, je dirais, bottom-up, il y en a un certain nombre. Il y a une méthode qui est basée sur de l'injection à chaud. L'injection à chaud, c'est une méthodologie qui a été énormément utilisée par le groupe d'Alizy Viatos et autres pour créer justement des quantum dots à base de cadmium, sélénure de cadmium ou sulfure de cadmium. Vous avez des méthodes basées sur de la nucléation précipitation contrôlée, je vais vous montrer, et le chauffage des précurseurs. Alors bon, il y a du chauffage, je dirais, habituel, sinon il y a d'autres méthodologies avec des méthodologies solvothermales, chauffage micro-ondes. On peut également construire finalement ou faire réagir ces perovskites dans des dispositifs de microfluidique. Ça, c'est intéressant parce que vous allez voir, la réactivité est très bonne. Ou bien on peut utiliser finalement aussi des excitations du type ultrason. Alors au niveau donc des compositions chimiques que l'on trouve, si on reste typiquement sur un mélange d'halogénure de plomb et puis d'un halogénure du cation correspondant minéral ou organique, donc ce sont les précurseurs qui sont pratiquement tout le temps utilisés dans les publications, et bien à ce moment-là, ces systèmes-là peuvent être couplés d'une part à des solvants qui ont des affinités différentes. Alors, bon, c'est ce qu'on appellera les bons solvants, DMSO, DMF, vous allez voir pourquoi c'est important, ou bien des mauvais solvants, type isopropanol, toluène, hexane, en présence ou non, finalement, de ligands de surface qui vont permettre, finalement, de contrôler la taille, par exemple, par inhibition de la croissance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, une spécialité des perovskites, c'est ce que font tous les gens dans le nano. C'est-à-dire qu'en jouant sur les ligands, la quantité de ligands, eh bien, en fait, on augmente le rapport surface-volume, on diminue la taille, puisqu'on stabilise la surface en collant des ligands différents qui peuvent être, voyez, des amines ou bien des acides oléiques ou autres. Alors, les méthodes d'injection à chaud, comment opère-t-on ? On a finalement une solution chaude avec un solvant donné, avec l'un des précurseurs, hein, typiquement le l'iodure de plomb, par exemple, et on injecte, en fait, en présence de ligands, le second précurseur, qui peut être, par exemple, l'iodure de césium ou l'iodure de méthylammonium, et ensuite, l'injection, et ensuite, on bloque le système le plus vite possible avec un bain de glace. C'est-à-dire qu'on crée une germination ultra rapide, et ça aussi, la germination ultra rapide, ça permet finalement de consommer la matière dans le bain et ce qui reste de la matière, en fait, les précurseurs l'utilisent pour former des nanoparticules. Donc, en général, c'est ce que je vous ai dit dans de nombreux cours, pour faire des nanoparticules, on peut jouer également sur une germination très rapide et justement une croissance qui va se faire avec la matière qui reste, et on va rester au niveau de nano-objets. Donc ça permet, vous voyez, de synthétiser des nanoparticules, et en fonction de la composition choisie, eh bien, on va obtenir des colorations, par exemple, en luminescence, qui vont être différentes. Et puis, quelque chose d'assez classique, qui n'est pas propre au perovskite, en choisissant finalement les molécules organiques que l'on utilise, avec des chaînes plus ou moins longues, si on prend une tête acide ou une tête amine, eh bien, non seulement on va pouvoir régler la taille des objets que l'on crée, ça, c'est très classique de la chimie douce, mais également, on va régler les formes des objets. Alors là, j'ai reporté, vous voyez, sur ce transparent, différents objets avec différentes formes, plus ou moins allongées, plus ou moins cubiques, des petits cubes, des gros cubes, des petits cubes. Et ça se gère simplement en jouant sur deux facteurs, la température, plutôt basse température, aux alentours de 100 degrés, ou plutôt haute température, autour de 200 degrés, et maintenant, en jouant finalement sur les longueurs, soit des chaînes acides, de l'acide oléique ou des chaînes plus courtes, ou sur les chaînes des fonctions amines. Et donc, ça permet finalement d'obtenir un espèce de diagramme de composition dans lequel on arrive à contrôler les formes, plutôt des cubes, plutôt des plaquettes, ou dans certains cas, je vous montrerai également, on peut obtenir des formes beaucoup plus allongées sous forme de tiges, avec des tailles qui sont différentes. Donc là, ça, ce sont des méthodologies. Par exemple, ça a été énormément travaillé par Liberato Manna. Liberato Manna a travaillé des années avec Ali Viziatos à Berkeley. Donc, en fait, les méthodes de synthèse, en fait, il y a quand même des similitudes. Hein, c'est toujours les méthodes de synthèse par injection à chaud. Donc, en fait, ça permet de déployer des matériaux avec des tailles, des formes différentes, en restant à l'échelle nanométrique. Alors, une autre méthode qui, moi, me plaît énormément au niveau de la synthèse, c'est finalement la synthèse vraiment 100% chimie douce, où on va faire la chose suivante dans ce cas-là. On va prendre l'un des précurseurs, hein, ou le mélange des précurseurs, on va les dissoudre dans un bon solvant, typiquement des MSO ou des MF. On peut éventuellement ajouter des ligands à longue chaîne si on veut contrôler la taille ou les formes. Mais en fait, la réaction va se faire lorsque l'on va introduire ce mélange réactionnel dans un mauvais solvant qui va précipiter finalement l'étape de nucléation. Et ça se fait à température ambiante. Et ensuite, évidemment, on va former ces perovskites hybrides sous forme de systèmes nanostructurés, de nanoparticules, nanoplaquettes ou nanofeuillets en fonction finalement des décompositions chimiques et des proportions finalement des ligands aminés ou acides que l'on met dans le milieu. Mais tout ça, ça peut se faire à température ambiante. Hein. Donc c'est le passage de mélange d'un bon solvant à un mauvais solvant qui crée justement une sursaturation locale, la germination puis la croissance. Et donc tout ça, ça se fait à des températures proches de l'ambiante. Vous voyez, bon, vraiment, tout le monde peut faire une perovskite finalement. Donc j'ai un mauvais solvant, par exemple du toluène ici. J'ai mon mélange de précurseurs dans un beau solvant, j'injecte et j'obtiens des nanocristaux de perovskite. Et ensuite, je peux faire varier, la forme des cristaux en jouant sur les paramètres externes, en jouant sur la composition également et en jouant sur la nature des ligands. Voilà un autre exemple qui vous montre qu'en jouant finalement sur le processus chimique, mais toujours en travaillant par précipitation, en jouant sur le couple bon solvant, mauvais solvant, on obtient des structures en plaquettes, des structures en cubes, des structures en tiges, ou vraiment des structures nanométriques, ou vous voyez des structures relativement anisotropes. Donc tout ça, ça peut se faire agir à température ambiante dans des conditions de chimie douce. Alors on peut combiner ces approches bon solvant, mauvais solvant, avec des tas de procédés d'ingénierie. Par exemple, il y a eu des travaux qui couplent, vous voyez, le mélange de précurseurs, bon solvant, la méthylpyrrolidone avec des ligands, toluène, mauvais solvant, et on fait de l'électrospray. Et on va générer finalement la fameuse perovskite ABX3, que je représente sous cette forme-là, de façon symbolique. Alors, ce que j'ai trouvé dans la littérature, bon, c'est l'utilisation de dépôts aérosols pour faire du spray coating, délivrer les systèmes directement en forme de film avec l'impression jet d'encre, ou bien simplement la raclette du système. Hein, donc tout ça, c'est compatible avec des procédés qu'on utilise tous les jours, je dirais, pratiquement, dans les laboratoires qui font de la chimie des matériaux et de la chimie colloïdale ou de la chimie douce d'une façon générale. Alors voilà un exemple qui est assez amusant. Donc c'est l'élaboration de films perovskites, et ça c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup d'applications qui visent la formation des films, et en particulier dans le photovoltaïque. Donc on peut les former en une seule étape, donc en mélangeant simplement les deux précurseurs dans un bon solvant, et ensuite en faisant un dépôt par exemple par spin coating et en présence d'un chauffage modéré. Donc le bon solvant, dans cet exemple-là, c'est une diméthylacétamide. Hein. Donc les mauvais solvants, typiquement, ça va être de l'isopropanol. Et c'est ce qui est fait dans ce deuxième exemple, où on va utiliser, vous voyez, dans un premier temps, on va faire un dépôt de l'iodure de plomb dans le bon solvant, et puis on va mettre l'ammonium, l'iodure de méthylammonium, dans un solvant qui est juste bon pour lui, mais qui n'est pas bon pour l'ensemble. On va le déposer et ensuite on va aller former la perovskite. Et donc, vous voyez, ça donne finalement, ces approches ont l'air semblables, mais ça donne une versatilité sur la taille des objets qu'on peut obtenir, sur la façon de former le film. Hein. Donc c'est une, je dirais une physico-chimie qui est assez riche. Ça, c'est un travail qui a été fait par Liberato Manna et son équipe. Hein. Et donc, pour faire des encres de nanocristaux, hein, donc, tout ça, c'est fait à température ambiante, à l'air. Vous allez voir, je vais vous montrer le protocole, c'est très simple. Hein. Et on passive les nanocristaux, en fait, par des ligands à chaîne courte, comme je vous l'ai décrit précédemment. Alors, comment fait-on ? Dans un premier temps, vous voyez, on mélange... on peut utiliser soit le césium, soit le méthylammonium comme cation, dans un mélange d'acide propionique et de butylamine, donc des systèmes qui sont des complexants de surface. On mélange l'ensemble 10 secondes, on additionne le plomb dans un deuxième temps, on commence à former, puisqu'on a, vous voyez, on a un mauvais solvant qui arrive, on commence à former la perovskite, on centrifuge, on remet les cristaux en suspension. Et ensuite, eh bien, on fait du spin coating à partir de cette ou du jet d'encre à partir de cette dispersion colloïdale. Donc ça donne, vous voyez, des nanocristaux qui ont une qualité qui est relativement bonne. Là, on voit bien le cliché de microscopie électronique. Et puis ça donne, vous voyez, des dispersions colloïdales. C'est trouble, mais c'est parce que c'est la diffusion de la lumière. Hein. Mais globalement, ce ne sont pas des systèmes qui précipitent. Et à partir de ces systèmes, on peut déposer, par spin ou par deep coating, finalement, des systèmes à base de perovskite. Ces systèmes-là, bon, ce qui est reporté dans l'article, c'est qu'on a un rendement quantique de fluorescence sur les films eux-mêmes, qui est pas mal, qui est de l'ordre de 35%. Alors, on peut se poser la question maintenant, mais... pourquoi, finalement, avec des rendements aussi importants en photovoltaïque, pourquoi il n'y a pas des cellules, on ne trouve pas des cellules à base d'hybrides partout ? Alors, ça commence à se développer, mais on n'en trouve pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que, finalement, pour développer au niveau commercial des cellules photovoltaïques comme toutes les autres, il faut une tenue de 25 ans. Ça, c'est le critère. Et, en fait, il faut une stabilité du système à l'humidité, à l'oxygène, au rayonnement, cellules solaires veut dire également échauffement, etc. Donc il faut avoir cette tenue. Et donc en particulier, ces perovskites-là, soumises à la chaleur, aux UV et à l'eau, eh bien, se décomposent dans les éléments constitutifs dans des temps relativement courts. Et en plus, le cation A, tel qu'il est, le cation le plus utilisé dans les synthèses, eh bien, c'est un cation, vous voyez, qui est relativement hygroscopique. Deuxième point, c'est le problème, c'est que ces perovskites sont intéressantes, mais il y a ce fameux plomb, hein, c'est des systèmes à base de plomb. On sait tous que le plomb, ça représente une certaine toxicité. Ça, ce sont les doses réglementaires, donc tolérées 15 microgrammes par litre d'eau ou 0,15 microgrammes par litre d'air. Sauf qu'un capteur solaire d'un mètre carré, avec 300 nanomètres d'épaisseur, il y a déjà 0,4 g de plomb dedans. Alors ça, c'est un chiffre qui pourrait être impressionnant, mais ce qu'il faut voir, c'est que les produits de décomposition du type PBI2 sont très très peu solubles. Donc en fait, si on fait un calcul un petit peu plus scientifique, on s'aperçoit que finalement, la quantité de plomb qui va se trouver dans l'environnement, elle est inférieure à ça. Mais il n'empêche que, pour toutes les raisons qu'on peut évoquer, il faut absolument éliminer au mieux le plomb. C'est pour ça qu'on a le choix d'autres métaux, hein, typiquement l'étain, le germanium et autres, mais personne n'est parfait, vous allez le voir. Hein. Donc la substitution du plomb, elle est faite avec d'autres cations, mais là, on va se heurter, ou tout du moins, il va falloir tenir compte, finalement, des stabilités intrinsèques de la structure perovskite et des fameux facteurs de Goldschmidt dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, il y a une autre option qui est proposée, c'est finalement de mettre en place des membranes sur le sol autour, complètement isolantes autour des cellules, de fermer les fermes solaires, et puis de recycler le plomb de façon la plus propre et la plus efficace. Mais il n'empêche que si on trouvait des options où on diminue la quantité de plomb, en gardant les performances, je dirais que nous serions gagnants-gagnants. Alors, la stabilité à l'humidité, à l'oxygène, le rayonnement, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand on est sous champ électrique, eh bien, on a une migration des ions, hein, une stabilité de la phase perovskite qui est détruite, ou, j'irais dans le meilleur des cas, c'est un passage possible de perovskite tridimensionnelle à des perovskites lamellaires sous forme de dés. Alors, bon, dans tous ces mécanismes de dégradation, Bien, il y a l'importance des joints de grain, des états de surface, des contraintes mécaniques. Ce que je vous ai reporté ici, c'est à nouveau le facteur de tolérance en fonction de la nature du cation. Le facteur de tolérance de Goldschmidt, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, c'est simplement un facteur qui donne l'empaquetement optimum en fait, des différents éléments purement sur une construction géométrique de la structure perovskite. Et globalement, quand vous éloignez de 1 ou de 0,8, eh bien, vous arrivez dans une zone où les perovskites ne sont plus stables, voire métastables. Et donc, en fait, l'idée, vous voyez, en fonction de la taille du cation, on voit très bien que bon, pour les cations du type césium et rubidium minéraux, on est encore dans des perovskites, même si elles sont dissordues. Pour les petits cations organiques et du type méthylammonium, on est encore... OK. Pour le formamidinium, on commence à être limite. Et puis pour les autres, eh bien, on sort finalement du domaine de stabilité. Mais ça, je vais vous le montrer dans deux minutes, c'est peut-être quelque chose qui peut être utilisé. Alors, comment peut-on améliorer la résistance à l'humidité de ces systèmes? Eh bien, il y a une option, c'est d'encapsuler complètement la cellule et de la mettre sous azote. C'est ce qui a été fait pour toutes les photovoltaïques organiques. Parce que l'une des limites dans le développement du photovoltaïque organique, vous avez vu maintenant, ces systèmes atteignent 17%, ça a été finalement la non-stabilité en présence d'oxygène et en présence d'humidité. Et donc ça, c'est une possibilité qu'il faut toujours garder. Et puis, il y a une seconde possibilité sur laquelle, j'irais, s'acharne un grand nombre de laboratoires, c'est la modification des matériaux, soit en créant, vous voyez, des couches hydrophobes ou recouvrant une couche de type polymérique, soit en essayant de passiver les surfaces par adsorption de petites molécules, soit en créant des composites, et ça me paraît une voie assez astucieuse, de mélange de perovskite 2D et 3D. Donc ce que je vous montre ici, c'est l'évolution du rendement photovoltaïque d'une cellule en fonction de jours, sur une trentaine de jours, la cellule telle qu'elle et la cellule qui est protégée par un film de PVP, de polyvinyl pyrrolidone. Ici, vous avez la réponse optique à 30 jours du film, qui a complètement perdu ses qualités de luminescence, vous avez dégradé le système, alors qu'on garde une réponse en photoluminescence qui reste tout à fait raisonnable après 30 jours. Donc c'est une possibilité. Ce n'est pas parfait, parce que vous voyez bien, vous avez quand même des décroissances. Alors, il y a un certain nombre de groupes de chercheurs, et en particulier la personne qui a trouvé le premier effet photovoltaïque, donc le groupe de Miyasaka, regarde également les mécanismes finalement de destruction de ces perovskites hybrides sous lumière. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment vous avez de l'oxygène, si vous n'isolez pas la cellule, et vous formez ce radical anion superoxyde. Et c'est ce radical anion superoxyde qui récupère les protons finalement de l'alkylammonium, des protons, et c'est la voie de dégradation principale. Et donc le cation organique se déprotonne facilement, donc une des possibilités, c'est de finalement diminuer l'acidité du cation organique en allant, par exemple, soit prendre des cations minéraux, soit prendre des cations organiques du type formamidinium qui ont des pK qui vont être différents. Alors évidemment, ça va engager finalement aussi des variations structurales. Alors, ce qui se passe dans de nombreux travaux aujourd'hui, si j'essaie de faire un bilan le plus simple et le plus rapide, c'est qu'on fait des mixtes entre la perovskite hybride avec un cation organique et avec du césium, et ça permet, ces mixtes, finalement, permettent d'obtenir des systèmes qui sont plus stables, ont également des mixtes sur l'halogène, mais globalement, les systèmes au niveau des rendements photovoltaïques aujourd'hui sont encore moins performants, de l'ordre de 15%. Donc, les résultats les plus encourageants que j'ai trouvés dans la littérature sont des rendements, vous voyez, qui peuvent atteindre jusqu'à 17%, photostabilité sur 500 heures en boîte à gants, 1000 heures sous air, mais avec quand même des rendements photovoltaïques qui sont moindres. Donc on perd sur le rendement lorsque l'on veut gagner en stabilité d'une façon générale. Alors stabiliser des systèmes, en fait des interfaces, quel que soit le système, ça le chimiste des nanomatériaux sait faire, Typiquement, ce que l'on va, c'est recouvrir finalement les surfaces avec des ligands ad hoc qui vont venir s'ancrer sur la surface pour éviter, pour à la fois créer une couche hydrophobe et à la fois éviter finalement que l'eau ou que les réactifs qui dégradent le matériau ne puissent pénétrer. Donc voilà, globalement, un très bon couplage, ce sont des phosphonates sur ces surfaces-là, ou bien les ammoniums quaternaires. Et puis récemment, eh bien, il y a eu des molécules qui ont été fabriquées un peu sur mesure, où vous avez un ancrage du phosphonate sur la surface de la pérovskite. Donc ça, c'est un lien covalent. Et en même temps, vous voyez, vous avez une fonction d'ammonium quaternaire qui vient jouer le rôle de l'ammonium, j'irais, qui rentre dans la structure pérovskite. Et donc tout ça, ça permet de stabiliser les surfaces de certains systèmes. Ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Gretzel, qui, bon, bien qu'il ait été en fait l'inventeur avec ses collègues de la fameuse cellule Gretzel, en ce moment, quand vous regardez ce que fait Gretzel, il travaille énormément sur les photovoltaïques, mais à base également de pérovskite hybride. Donc, ce qu'il a fait, donc, il a passivé ses surfaces donc de pérovskite en couplant un phosphonate et puis un alkyl ammonium. Donc ça, c'est, vous avez, vous voyez, un couplage symétrique, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir un couplage de collage covalent et un couplage associé à une simple compensation de charge. Donc ça, c'est le montage de la photo, de la cellule photovoltaïque. Donc je passe sur les détails, donc elle est à base de pérovskite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici bon, l'évolution de la cellule, je dirais, photovoltaïque standard en fonction du temps, dans des conditions d'humidité de 55% et d'illumination à 10%. Et ici, vous voyez l'évolution, justement, de la cellule qui a été protégée simplement en rajoutant des ligands, des pièges sur la surface. Vous voyez, donc il y a quand même, de face, à l'œil, je dirais, il y a clairement une nette évolution. Et puis ici, vous avez la performance à 85 degrés. Globalement, sur un temps de, vous voyez, 300 heures, il n'a pas été plus loin, ça, je ne sais pas pourquoi, mais globalement, vous avez quelque chose qui reste stable, alors que dans les autres conditions, vous avez une dégradation qui a lieu, je dirais, dans des temps inférieurs à 150-200 heures. Alors maintenant, si je reviens sur la chimie et sur les structures, finalement, de ces pérovskites hybrides, en regardant le fameux facteur de tolérance, vous voyez, c'est en gros la somme des rayons du cation A et de l'halogène, du cation B et de l'halogène. En fait, ça correspond à un empaquetement cubique. Et donc, on a un système qui est stable dans ce régime de facteur de tolérance et des instabilités lorsqu'on en sort. Alors évidemment, on va pouvoir, et c'est ce que font les gens aujourd'hui, jouer finalement sur la nature des éléments alcalins ou ammonium, et également sur la nature des métaux. Et en particulier, ici, je vous montre un exemple avec quatre molécules, quatre ammoniums de tailles différentes. Le méthylammonium, le formamidinium. Alors là, l'acidité diminue dans ce sens-là, donc c'est intéressant pour la stabilité. Le diméthylammonium et puis le guanidinium. Si vous placez en fait des rayons équivalents, ce ne sont pas des sphères bien évidemment, des rayons équivalents correspondant à ces cations, eh bien on voit que dans la zone de stabilité, le premier, le méthylammonium, correspond à la zone de stabilité, le second, formamidinium, oui, le troisième, DMA, déjà se trouve en dehors, et le guanidinium également. Le guanidinium est ici. Et se trouve totalement en dehors de la zone de stabilité. Donc, il y a une gêne, là, c'est-à-dire que si on veut aller choisir des cations un peu moins acides pour éviter les réactions secondaires dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, on va sortir de la zone de stabilité. Par contre, il y a une astuce. Ça a été trouvé par des groupes chinois en particulier, et c'est de se dire... Est-ce que je ne peux pas, finalement, utiliser ma connaissance des passages entre 3D et 2D des structures pérovskites en jouant sur la nature des cations pour stabiliser quand même des structures pérovskites? Donc, en fait, ce passage entre la pérovskite cubique traditionnelle et les phases lamellaires du type Rudlensen-Popper peut se faire si, par exemple, vous utilisez un mélange de cations. Vous allez obtenir un petit cation ici en bleu qui va rentrer dans la structure pérovskite classique Et dans l'espace interlamellaire, et vous allez avoir des cations, des bicouches de cations un peu plus encombrants, qui vont permettre de créer ces systèmes lamellaires. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait en ajoutant finalement des petits cations et des exilammoniums. Et ces exilammoniums, ils ont deux intérêts. Le premier, c'est bon, évidemment, on peut conserver des structures pérovskites 2D. Mais finalement, le fait de créer du 2D par rapport au 3D, ça relaxe les contraintes structurales. Et à ce moment-là, ça permet d'accepter dans la structure des cations qui n'auraient pas pu être acceptés dans la structure peroxyde classique. Donc des cations qui sont un peu moins acides. Donc des systèmes plus stables. D'autre part, le fait de... Vous voyez, ce sont des amines avec des chaînes à 6, c'est pas énorme, mais il y a déjà un caractère hydrophobe qui arrive en supplément. Et ce caractère hydrophobe, eh bien, il va permettre justement de créer de l'hydrophobie et donc d'éviter que l'eau pénètre très facilement et aille détruire le matériau. Donc ça, c'est une démarche qui est très très intéressante, qui a été faite, vous voyez, avec des cations très, très différents, mais assez grands, qui se mettent dans l'espace interlamellaire. Et c'est ce que je vous dis, ce qui est important, c'est que maintenant, dans la structure pérovskite, la partie pérovskite classique, je dirais, eh bien, on va pouvoir aller mettre des systèmes plus gros, comme le guadidinium, etc. Et donc là, ça ouvre tout un éventail de solutions. Alors ça se teste très facilement au niveau du laboratoire, parce que lorsque vous êtes dans des systèmes où vous ne formez pas ces phases non pérovskites, c'est-à-dire que vous, en gros, vous détruisez, vous avez ces systèmes totalement incolores, et vous commencez à avoir l'effet quantum dot à partir du moment où vous faites la pérovskite, qu'elle soit 3D ou 2D. Donc visuellement, pour le chimiste, c'est un outil qui est facile à voir. Si vous êtes dans le rouge, c'est que c'est bon. Si vous êtes dans le jaune précipité, comme ça, c'est que c'est pas bon. Et donc ça, c'est quand même... On a toujours besoin de ce genre de critères au niveau laboratoire. Donc c'est des pérovskites 3D, globalement, qui sont les plus performantes, avec des PSE de 23%, mais moins stables. Les pérovskites hydrophobes sont plus stables, mais moins performantes, avec des rendements de l'ordre de 5 à 10%, 10% dans le meilleur des cas, sont ces fameuses pérovskites lamellaires. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire des composites, de couches 2D et de 3D, pour obtenir à la fois des rendements qui soient un peu meilleurs que ceux-là et avec des stabilités qui soient meilleures. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature, des rendements des composites à gradient 3D, 2D à 12%, stables sur plus d'un an. Fin 2019, on commence à avoir des rendements qui atteignent 19%. Donc c'est pas mal. Ça ne doit pas être facile à faire, quand même. Et des stabilités, vous voyez, sur 10 000 heures, ça c'est le rendement photovoltaïque, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits dans l'équipe à l'EPFL à Lausanne, en particulier. Et donc, c'est très, très intéressant, cette démarche, indépendamment de l'intérêt des systèmes lamellaires 2D. Alors, maintenant, diminuer la quantité de plomb. C'est le deuxième verrou à faire sauter. Eh bien, on va choisir des cations qui ne sont pas toxiques. Alors, avec des... Vous voyez, on a diminué un tout petit peu la quantité de plomb en mettant de l'étain et du cuivre. Là, on a des rendements photovoltaïques qui restent à 20%, mais quand même, on a encore beaucoup de plomb. Et aujourd'hui, il y a énormément d'études qui essaient de substituer le maximum de plomb, essentiellement par des cations divalents du type étain 2, germanium, tout en jouant sur les règles, finalement, de composition structurelle et les paramètres, je dirais, de stabilité de Goldschmidt, de telle façon à la fois à conserver les structures et en incluant, finalement, des cations différents. Alors, un cation qui a été énormément utilisé pour substituer le plomb, bien évidemment, c'est son voisin, juste au-dessus, l'étain, très proche du plomb dans de nombreuses propriétés. Alors, qu'apporte finalement la substitution de l'étain, du plomb par l'étain? Bon, on a un gap plus petit, donc on se rapproche du gap optimum, hein. Je vous rappelle que c'est un 30 et quelques, un 33, je crois, l'optimum théorique pour obtenir 33% de rendement sur une cellule photovoltaïque avec une seule jonction. La mobilité des porteurs est très grande. Ce n'est pas toxique, c'est ce qui est visé. Et les tests de stabilité sur une centaine de jours sont positifs. Donc ça, c'est tout ce qui est le plus. Évidemment, il n'y a jamais que du plus, il y a du moins. Contre, en fait, c'est que l'étain peut changer d'état d'oxydation facilement et passer à 4, donc ça devient un dopant P dans un semi-conducteur N. ça crée un certain désordre et des rendements photovoltaïques qui diminuent. Ce sont des systèmes qui cristallisent très vite. Donc, au niveau de la formation des films, on peut avoir des mauvais recouvrements, des inhomogénéités. Hein, et donc, en fait, en ce moment, si vous regardez la littérature des 6 derniers mois, les gens sont en train d'ajuster au mieux, finalement, l'étain, de conserver son état d'oxydation à 2, et en jouant également sur les aspects nature du cation, et également façage par les fameuses phases bidimensionnelles. Alors, si je résume là, le bilan en janvier 2020 sur les cellules photovoltaïques à pérovskite. Il y a déjà un paquet d'industriels qui sont impliqués, hein, Toshiba, Oxford, Solaronix, EDF. Ça, ils sont impliqués, c'est vraiment des systèmes sur lesquels les gens travaillent énormément. Il y a le même engouement que sur le silicium au départ. Au niveau académique, plus de 1000 instituts et donc 2000 laboratoires. En France, vous avez l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, vous avez le CEA et ses filières, vous avez de nombreux UMR, CNRS qui travaillent là-dessus. Au niveau des résultats aujourd'hui, ben, les modules de labo en cellules uniques, c'est plutôt 25%, 27 à 30% en cellules tandem, mais sur des tout petites surfaces. Sur les grands modules, au moins des 10-10, on atteint 14%, c'est-à-dire qu'on est déjà quand même au moins au niveau, voire au-dessus des cellules de Grotzel. Donc ça, c'est un aspect positif. Hein. Et ensuite, bon, ben, il y a énormément de travaux en ce moment qui sont là pour, ce que je viens de vous le mentionner dans la dernière partie de mon exposé, pour améliorer finalement les propriétés, la stabilité, en variant finalement la nature des cations, en jouant sur les anions, en passivant les interfaces, substitution de certains anions par du sélénium. Bon, ça, c'est peut-être pas génial au niveau des aspects toxiques. Et puis, des pérovskites hybrides à composantes minérales, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à panacher les systèmes avec, par exemple, des alkyles ammonium et du césium, et puis les fameux composites 3D, 2D. Au niveau de la toxicité du plomb, il y a des résultats prometteurs par substitution de l'étain ou du germanium. Il y a des pérovskites au bismuth et à l'antimoine qui sont en train d'être développés. Pour l'instant, les performances restent encore faibles. Mais bon, ce n'est peut-être qu'un début. Elles présentent en général des stabilités qui sont meilleures à l'humidité, à la chaleur et à la lumière. Mais vous voyez, les rendements sur ces systèmes-là sont faibles. Et puis, on a tendance quand même à élargir un peu le bandgap. Et je vous rappelle que le bandgap optimum, c'est entre 1,3 et 1,5 EV. Donc, on perd finalement aussi sur les propriétés, je dirais, intrinsèques, optiques du système. Alors, les pérovskites, d'une façon générale, est-ce qu'on peut dire qu'on se cantonne au terrain correspondant au photovoltaïque ? Non, loin de moi cette pensée. En fait, on peut modifier, vous voyez, des anions organiques par des systèmes qui sont simples, comme dans le cas des pérovskites, qui sont essentiellement des pérovskites à base d'halogénure, mais on peut également choisir des pérovskites avec une seule charge, où l'anion ne va pas représenter qu'une seule charge, donc ça va toujours correspondre à la formule ABX3, mais cet anion va être pontant. Hein, donc je vous rappelle, la pérovskite traditionnelle, totalement minéral, le titanate de calcium. Les pérovskites hybrides, on met du plomb dans l'octaèdre et on met des alkyles ammonium à la place du calcium et on regarde la structure avec tout ce que je vous ai raconté comme possibilité de variation 3D, 2D. Et puis, eh bien, on va pouvoir changer l'iode, par exemple, pour un système, un anion, qui va être, lui, pontant. Donc, on rentre un peu dans le terrain des polymères de coordination, un petit peu. Vous voyez, on est un peu à la frontière, mais tout en gardant des structures pérovskites. Et là, ça va vous ouvrir à des tas d'autres métaux. Alors ça, c'est une revue qui a été faite par Tony Chittam récemment. Donc ça, ce sont les ammoniums qui ont été testés, vous voyez, avec des formes différentes. Et ici, les anions à une charge qui sont pontants, cyanure, formiate, azide, dicyanide ou des dicyanométhalates. Et donc tout ça, ça ouvre des structures pérovskites qui sont totalement originales et qui ne sont peut-être pas forcément intéressantes pour le photovoltaïque, mais qui sont intéressantes au niveau académique et qui sont intéressantes pour d'autres types de propriétés. Alors, vous voyez, par exemple, en jouant avec l'acide formique, le fer et un ammonium quaternaire, eh bien, on obtenait des doubles pérovskites. Vous voyez, vous avez une double pérovskite imbriquée, et donc ça, il y en a de nombreuses doubles pérovskites, ou bien en jouant également sur la nature, finalement, des cations et des anions, ben vous allez avoir des systèmes qui vont être enfin, au niveau structural, on appelle ça des antipérovskites. Donc là, on commence à ouvrir tout un zoo de matériaux qui sont pas forcément, qui sont sans doute pas intéressants pour le photovoltaïque de façon directe, mais qui sont hyper intéressants au niveau de la science fondamentale et au niveau des systèmes qui sont développés. Vous voyez ici, ça, ce sont des pérovskites, hein, avec à base de anions de type azide, donc un anion pontant, et puis de tétraméthylammonium. Et donc vous avez dans ces structures-là, là c'en est un autre avec du manganèse, et puis de l'acide formique, et puis cet azétidinium comme cation qui se trouve dans la cage centrale. Et ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, bon, vous avez des structures qui respectent finalement les conditions cristallographiques de la pérovskite, mais vous voyez, vous avez des transitions de phase dans ces hybrides, bon, qui dépendent de la température, et donc des polarisations, mais qui ne sont pas du tout induites par les mêmes processus physiques qui étaient classiques pour les barium titanate ou pour les strontium titanate. Là, vous avez quand même, dans ces transitions de phase, une implication forte des réseaux de liaison hydrogène. Donc on est dans un autre contexte au niveau de la nature physique qui crée finalement cette polarisation. Et donc ce qu'on attend de ces systèmes, eh bien, c'est des permittivités électriques intéressantes, on commence à avoir déjà quelques résultats, des matériaux ferroélectriques ou des multiferriques. Donc ça ouvre à nouveau la porte vers toute une série de matériaux faits par chimie douce, à base hybride organique-inorganique, qui reviennent challenger les propriétés très classiques, en fait, finalement, des pérovskites. Je vous en ai parlé la dernière fois, où finalement, c'était essentiellement ferroélectrique, piézoélectrique, pyroélectrique, c'était toutes ces propriétés-là. Mais là, ce qui est intéressant, de mon point de vue académique, c'est que les phénomènes physiques mis en jeu vont être différents. Et donc, il y a des études scientifiques à faire qui sont, à mon avis, intéressantes. Alors, je résume. Pérovskite hybride et chimie douce, donc une chimie riche et versatile, des nombreuses possibilités de mise en forme, avec un contrôle des étapes de nucléation croissance, une température, vous voyez, tout ça, ça se fait à des températures assez douces par des mélanges de solvants, avec des formes qui peuvent être nanoparticules, nanotiges, nanoplaquettes, donc on peut obtenir des objets nanométriques avec différentes formes, et puis également, on peut contrôler le passage de pérovskite cubique à des phases lamellaires du type RP, donc des phases lamellaires en jouant finalement sur la taille de certaines composantes ammonium que l'on peut introduire dans la synthèse. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre d'autres domaines. Ça ouvre le domaine d'une exfoliation chimique, de réutiliser finalement ces morceaux un peu comme vous pouvez imaginer utiliser du... Bon, je vais dire une énormité, du graphène, mais globalement, maintenant, c'est des monofeuillets, donc on va pouvoir les réutiliser pour aller faire une physique particulière sur le monofeuillet. Faire des nanocomposites, c'est ce que je vous ai montré dans le cadre du photovoltaïque, ça vous permet de gagner sur l'aspect stabilité tout en ne perdant pas trop quand vous faites le composite avec le 3D sur la réponse, sur le rendement photovoltaïque. Et puis ça ouvre tout un domaine qui est très très peu étudié, c'est des cristaux liquides à base de pérovskite. Sachant que ces cristaux liquides, maintenant on va pouvoir jouer dans le feuillet sur la propriété spécifique de ce qu'on met dans le feuillet. Ça ne va pas être simplement l'empilement, avec toute l'étude structurelle qui doit être géniale et intéressante à faire, mais il y a la propriété intrinsèque du feuillet qui peut avoir un peu les propriétés que je vous ai résumées de façon non exhaustive, mais que je vous ai résumées dans un temps relativement court. Voilà, donc 2000 laboratoires de recherche investis sur ce thème. Il y a encore plein de choses à faire. Il faudrait aussi que les laboratoires regardent, de mon point de vue, aussi en dehors du photovoltaïque, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes au niveau de la science fondamentale à faire sur ces systèmes-là. Voilà, je vous remercie.